Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe dans On The Range. Nous sommes en pleine campagne de financement, la deuxième semaine bat son plein et on vous rappelle que le numéro de téléphone accompagné c'est le 562-5968. Merci à ceux et celles qui depuis déjà le 28 ont cessé de nous donner un peu plus pour supporter la station de la radio. Vous savez que sans vous, nous sommes rien et nous avons besoin de votre support encore une autre fois, une année de plus pour gagner ensemble, mesdames et messieurs, le pari. Alors, bienvenue à l'émission Afrique Plus. Mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Et voilà l'introduction que j'ai préparée pour vous. Il y a 14 ans, l'Afrique et la communauté internationale faisaient la sourde oreille devant l'assassinat au Rwanda de 10 000 personnes par jour pendant 3 mois. C'était alors le 6 avril 1994. 14 ans après, où en sommes-nous? Car la mémoire d'un génocide est une mémoire paradoxale. Plus le temps passe, moins on oublie. Et tôt ou tard, la question reste au cœur des relations entre les Africains et leur continent. Le drame rwandais est-il essentiellement culturel? Est-ce le bilan d'une évangélisation ratée ou peut-être trop réussie? Qu'est-ce qui a créé cette situation monstrueuse? Selon les historiens, il y a eu 10 grands massacres entre la période allant des années 1959 à 1994. Mais après les événements de 1994, nous pouvons dire sans nous tromper que c'était la pire des barbaries. Mais aussi, on peut essayer après coup de s'en montrer digne, de prouver dans un sens qu'on l'a mérité et qu'il n'a pas eu lieu pour rien. Et cela s'appelle l'engagement. Au Rwanda, comme dans plusieurs pays africains, si les colons belges se sont appuyés sur la monarchie Tutsi, 13% de la population pour diriger le pays, alors que l'Église, quant à elle, a joué un rôle inattendu pour l'émancipation de 84% des Hutus, en finissant l'éducation et protection, en fournissant éducation et protection à certaines personnalités Hutus, l'Église a favorisé l'émergence d'une élite dont sortira Grégoire Kayibanda et Juvenal Habyarimana, deux chefs d'État Hutus qui dirigeront le Rwanda après son ascension à l'indépendance en juillet 1962. Après le génocide de 1994, l'ONU a créé le Tribunal pénal international du Rwanda, le TPIR, le 8 novembre 1994, basé à Arusha, en Tanzanie, chargé de juger et de condamner les planificateurs, instigateurs et ceux et celles ayant pris part au massacre. Plusieurs condamnations ont déjà eu lieu et le gouvernement rwandais a également instauré les gachacha qui sont des sortes de tribunaux coutumiers permettant d'alléger la tâche au TPIR. En s'intéressant à la culture de la violence au Rwanda et dans d'autres pays en Afrique, on comprend qu'aucun conflit africain ne saurait se réduire à un autre et que chaque cas, on avait des mécanismes internes particuliers. Les uns ont menti, les autres ont démenti. Nous avions laissé les victimes dans les ténèbres et les rescapés avec leurs douleurs, leurs douloureux souvenirs. Voilà l'introduction d'Afrique Plus, mesdames et messieurs. Il est 7h06. Nous sommes en pleine campagne de financement. Nous allons parler avec monsieur, laissez-moi voir, monsieur André Moulumba. Il est à Calgary. Nous partirons de Calgary. Nous irons en Allemagne, à Berlin, à Brême, en fait, au nord de l'Allemagne. Et de l'Allemagne, on reviendra ici à Ottawa. On parlera avec, entre autres, Albert Kayumba, le vice-président de l'Assemblée, l'association Umura, qui va nous parler de tout ce qui est organisé entre le 7 avril au 26 avril dans la région de la capitale par rapport à la célébration du 14e année successive du génocide des Tutsi et Hutu au Rwanda, mesdames et messieurs. Et en fait, on aura quelqu'un de la communauté congolaise, le président de la communauté congolaise qui nous parlera d'un événement qui sera organisé dans la région de la capitale nationale. Et entre autres, nous avons un programme chargé, une heure. Pendant une heure, nous sommes africains. Restez là, mesdames et messieurs, on va chercher André Moulumba et ça doit passer très vite.
Africa, Yelidari salmi mimoi, Oli na banta dan, dan ele nyol salmi ima. Kali chabi to do barol na chir kaneka la keto de, Bolon ba gule loke, ula ni mere minna de. Dental wavi che yeu tere noti ko fawo nende ende woni jedowo akili woni mejoto dari te ko mbadi ma so moji na nyembe e golle mada bandira do jito jam Tumbao da wende mi salmi nima Bandira do jito jang Tumbao da wende mi salmi nima Anji do hore ma Jeti ni hono ma mi salmi nima Anji do hore ma da Jeti ni adu na mi salmi nima Alla sili do hore ma Danile nyungu salmi nima
Voilà, 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 il est 7h13 chez nous, 13h13 chez vous. Vous êtes en Allemagne, à Brême. Bonjour, monsieur Keshi Katata. Bienvenue à l'émission africaine.
Bonjour, monsieur Véani. Comment ça va?
Ça va bien vous-même?
Ça va.
Alors, chers auditeurs, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a 14 ans, le génocide au Rwanda, nous recevons aujourd'hui M. Mushenge Shikatata, dont la réflexion et les articles sur l'Afrique sont bien connus de la plupart des gens, que l'histoire, autant que l'avenir, l'objectif de ce continent intéresse. Monsieur Mushenge, dites-nous, le 6 avril 1994, où étiez-vous?
Ah, j'étais en Allemagne, chez moi. Ma dernière fille venait de naître le 4 janvier. Et je me rappelle que je travaillais pour FM, qui est devenu plus tard Masterfood. Tout le monde connaît Mars, Snickers, Maggie, Uncle Ben's, etc.
Alors dites-moi, comment expliquez-vous ce qui s'est passé au Rwanda ce jour-là et qui a duré plus de 3 mois avec 1 million et plus de morts?
Je dois vous avouer que j'ai été choqué, autant que les Allemands par ailleurs. Parce qu'au début, et c'était dû à l'abattement de l'avion présidentiel, on croyait avoir affaire à une simple vindicte. Puis les choses se sont détériorées jusqu'à prendre les aspects de véritable génocide organisé.
Selon vous, quel a été le rôle des élites rwandaises?
Ah, les élites rwandaises. Toute cette histoire, cette tragédie, si vous voulez, est le fruit d'une colonisation belge qui s'est appuyée sur les Tutsis minoritaires pour dominer les Hutus majoritaires. En envoyant les Tutsis aux écoles supérieures et en leur donnant des postes de responsabilité, les Belges se disant « ceux-là sont minoritaires, nous en viendrons à bout ». Les plus nombreux, les Hutus, on les convoya ou on les enferma plutôt au plus bas de l'échelle sociale parce qu'on croyait que de leur part, une révolte qui écroulerait le régime et la domination coloniale serait plus dangereuse. Ainsi, entre ces deux ethnies, se développa une animosité particulière. Les uns se firent plus importants qu'ils ne l'étaient, les autres se sentirent préjudiciés dans une société où, tout en étant majoritaires, ils étaient interdits ou empêchés à se réaliser autrement que comme subalternes tenus à la laisse. Ce que je reproche aux élites rwandaises, c'est justement de ne pas avoir compris ce jeu mesquin et plutôt pyromane du colonialiste belge. À l'indépendance, il aurait fallu des réformes sévères permettant de relever cette cruelle inégalité qui, comme on le verra à plusieurs reprises au Rwanda, mettra le feu aux poutres avec des conséquences que nous connaissons.
Et dites-nous, il y a plusieurs énigmes qui restent 14 ans après. Pourquoi 14 ans après le génocide rwandais, nous n'avions toujours pas de lumière par rapport à celui ou ceux qui abattirent l'avion qui transportait les deux présidents Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, présidents du Rwanda et du Burundi, et en plus de Hutu?
Ouais, c'est une belle intrigue cette histoire. Il s'agissait en réalité de jeter un faux bouc émissaire à une vindicte populaire meurtrière de la plus basse et choquante expression, quitte à justifier un coup d'État mettant fin à ces atrocités. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous n'arrivons pas à trouver les coupables, ou du moins le coup a été monté de telle sorte que ceux qui en étaient coupables en soient aussi les profiteurs. Cela leur permettait de taire toute velléité de trouver ceux qui ont réellement monté cette affaire. Or, on sait que les rebelles qui prirent le pouvoir avaient acheté quelques mois plus tôt, avant cet odieux assassinat, des missiles Milan français. Et l'avion présidentiel a été abattu par un missile Milan.
On vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous parlons avec M. Mushenge Shikatata, qui est en direct avec nous depuis Brême, en Allemagne, au nord de l'Allemagne, et que vous pouvez nous appeler au 613-562-5967-5968, c'est le numéro de téléphone à composer, pour vraiment essayer de donner vos dons et donner votre point de vue par rapport à l'émission qui est en train de passer. Monsieur Mushenge, on continue avec vous. Certains disent de cet attentat qu'il est le déclencheur du génocide génocide rwandais. Quelle est votre lecture de cet événement quand on sait que le président Mobutu devrait voyager dans le même avion avec les deux présidents victimes, mais qu'aux dernières nouvelles, il avait été informé de ne pas y voyager. Quelle en est votre lecture?
Ah, le vieux Léopard Mobutu Sese Seko était un ami privilégié de la France. Et il n'y a aucun doute aujourd'hui que la France, qui savait avoir vendu des missiles Milan à des rebelles, s'attendait à ce qu'ils s'en servent, n'est-ce pas? Et l'occasion était parfaite, sinon idéale, parce que ceux qui prirent le pouvoir autant au Rwanda qu'au Burundi faisaient chose commune dans la rébellion. Les rebelles prirent aussitôt le pouvoir dans ces deux pays, et aujourd'hui encore ils sont très liés. Cet attentat a déclenché un changement de pouvoir en Afrique centrale. Il a même contribué au coup d'État de Laurent Kabila au Congo de la RDC. C'est-à-dire que, même momentanément sauvé par les services d'information français, Mobutu était de toute façon condamné à disparaître. On le fit donc ouvertement contre lui avec la protection de la CIA. À noter que George Bush a visité dernièrement le Rwanda pour s'enquérir de l'assurance qu'au moins en Afrique centrale, les intrigues américaines pour mettre la main sur les richesses de l'Afrique centrale, que ces machinations allaient bon train.
Dites-nous, parlons maintenant de la justice dans ce conflit. Quel est le bilan que vous dressez de la justice internationale, la justice rwandaise et du silence de la justice africaine pour cet événement
Justice. D'abord, pour exercer ou garantir une justice digne de ce nom, il faut au préalable avoir des institutions dont la tradition et la stabilité des valeurs et d'idéal sont déterminées à exercer leurs prérogatives avec justesse et ambition d'équité. Mais en Afrique, les forces occultes, le pouvoir, la misère, la corruption, la mainmise des Occidentaux, par exemple, dans cette affaire des 103 enfants enlevés au Tchad, l'apartheid, ont toujours corrompu le bon fonctionnement des institutions. La justice en Afrique est devenue un fourre-tout duquel ne germe que ce qu'on veut y voir, pas la vérité ou la justice, mais bien certaines intentions politiques extérieures ou intérieures, ou des rapports sociaux entre riches et pauvres. Et quand il faut faire plaisir aux institutions internationales, on fait des réconciliations ou des procès qui mènent à des grotesques issues sans le moindre aspect judiciaire, comme la commission de réconciliation en Afrique du Sud, par exemple, où les Blancs satisfaits de garder le pouvoir économique qu'ils détenaient, ne virent pas pourquoi ils devaient encore comparaître quelque part, même sans condamnation. Je dois m'avouer profondément choqué de ce que les Africains ne se rendent pas compte, qu'on est habilement en train de leur voler ou de leur enlever une prérogative démocratique des plus fondamentales. Le droit de dire le droit, lequel est la sanction des valeurs éthiques et morales de toute société moderne.
Voilà, comme en RDC, en République démocratique du Congo et au Darfour, aujourd'hui, la communauté internationale était restée muette, sourde aux appels des Rwandais et Rwandaises. Même les Africains ne se sont pas venus au secours de leurs propres frères et sœurs. Comment expliquez-vous cela?
Mais cela s'explique par la misère, la pauvreté, la politique de division des États colonialistes occidentaux en Afrique qui ont veillé à ce que les Africains ne se demandent pas comment ils vont vivre et comment améliorer les choses et protéger leurs intérêts, mais qu'ils ne pensent qu'à un antagonisme ethnique, autre chose. Et on le voit souvent quand on entend les intellectuels maraudeurs, comme je les appelle, qui parlent toujours d'unité africaine alors qu'ils ne sont pas capables de donner de l'eau pure aux leurs, de les instruire afin qu'ils sachent quelles sont les affinités que les Africains ont réellement entre eux. Ces gens, tout en oubliant que la misère et la pauvreté rendent nerveux et agressifs, parlent eux d'unité africaine, d'afrocentrisme, etc. Or, eux, ils sont à l'étranger et vivent mieux. Curieusement, ni les Éthiopiens, ni les Érythréens ne se combattent à l'étranger. Ils se fréquentent et se lient d'amitié. Surprenant. En France, en Allemagne, au Canada ou ailleurs, ils ne meurent pas de faim. Pourquoi se battre ou se quereller bêtement? On le voit dans toute l'Afrique. Le véritable véritable problème est celui du bien-être. Ce continent, et cela depuis des siècles, n'a pas connu de véritable période où la liberté coïncidait avec la prospérité. Cela a toujours été où on avait l'un sans l'autre, ou alors on était assujetti par le colonialisme et on vivait relativement bien sous sa tutelle et son exploitation, où on avait la liberté et on ne savait pas s'en servir.
Dites-moi, 14 ans après, c'est aujourd'hui au Rwanda qui déstabilise aujourd'hui le Rwanda qui déstabilise toute la région des Grands Lacs aussi au vu de tout le monde, mais personne ne dit rien. Déjà des millions de morts en RDC. Selon vous, pourquoi la communauté internationale traîne-t-elle le pas à réagir vis-à-vis du Rwanda?
Mais parce que le Rwanda est soutenu par les États-Unis, le grand patron du capitalisme occidental. Se fâcher contre lui, cela peut faire mal, parce qu'ils ont le bras long et la rancune tenace. Voyez donc l'histoire de Cuba, tout en sachant que l'embargo contre ce pays était illégal et inhumain. Personne n'est allé à son secours, sauf l'Union soviétique. Or, ce pays lui-même vient d'abdiquer et de se reconvertir au capitalisme. Alors, qui osera? La Chine peut-être, qui sait? Ou Obama sera-t-il élu? Saura-t-il changer les choses? Parce que, pardon, l'Amérique d'aujourd'hui investit, s'il ne s'agit que de craindre le communisme, plus que n'importe quel pays du monde, en Chine.
Le patron du général Dallaire, parce que nous sommes au Canada, le patron de Dallaire parle et révélation sur les dérives d'un général de l'ONU au Rwanda, Jacques Roger Bobo, le chef de la MINUAR, qui était la mission de l'ONU à ce moment-là au Rwanda. Il a gardé le silence pendant pratiquement 10 ans, mais avec le tapage médiatique du général Dallaire est devenu indécent. Mais pour la première fois, le diplomate est sorti de sa réserve et il a accusé le militaire qui était sous ses ordres d'avoir trahi la mission de l'ONU à Kigali. Donc le patron du général Dallaire disait que ce dernier avait installé clandestinement pour poser des micros dans son bureau pour écouter toutes les conversations officielles et confidentielles à des fins de sabotage. Dites-moi, comme intellectuel africain, quels sont vos commentaires par rapport à tout ce match de ping-pong-là, un ment, l'autre dément, en fait?
Alors, cette affaire m'a fait beaucoup rire et elle est symptomatique à l'ONU. Non, ce n'est pas ce que c'était du faux, non pas du tout, ce n'était pas cela. C'est plutôt cette technique particulière permettant, après coup, de faire des procès sociaux inutiles alors que le mal, lui, a été accompli dans toute sa sournoiserie. Cela rappelle les excuses australiennes aux aborigènes. On se demande ce que ces excuses vont réparer au système social terroriste que les Blancs ont pratiqué sur les premiers habitants légitimes de l'Australie, ou encore au Kosovo, où les forces suédoises de l'ONU fermèrent les yeux pendant que les Serbes chrétiens massacraient devant eux 7000 musulmans. Et à ce propos de Suédois, leur doigté n'est pas nouveau. En 1960-61, lorsqu'on assassina Patrice Lumumba, ils veillèrent à ce que les forces ghanéennes envoyées par Kwame Nkrumah pour protéger personnellement Patrice Lumumba furent éloignées de lui et inféodées à l'ONU, qui laissa faire, comme par hasard. Lorsque le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, se rendit compte de la supercherie et voulut rendre public le complot que les officiers belges avaient fourbi contre le premier ministre congolais élu après l'indépendance, son avion fut abattu par erreur au Katanga par un Fuga Magista de l'armée katangaise, piloté par un Belge. Le problème de ces comptes ou de ces excuses constitue ou qu'on demande plus tard aux délinquants ou criminels légalement commandités, et je dis bien légalement commandités, par des forces complices et occultes, c'est qu'ils ne peuvent plus rien changer, ni aux morts, ni aux morts, ni aux victimes, ni au but réellement encouru par la rapacité économique et le fouvoiement politique organisé par les Occidentaux. En fait, on essayait seulement de se donner une peau de mouton qu'on n'avait pas. Maintenant, certes, ces vérités sont importantes, mais plus important n'est-il pas de faire en sorte que cette reprise n'ait pas lieu.
Voilà, écoutez, monsieur Mushakeshi, c'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit merci, merci infiniment de votre contribution à l'émission africaine. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à adresser à la communauté africaine et particulièrement à la communauté burundaise et rwandaise qui va fêter pendant ce temps, ces temps difficiles. Qu'est-ce que vous avez à leur dire en 10 secondes, en 30 secondes?
À tous les Africains qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont aux États-Unis, je leur demande de ne pas oublier que nous avons une histoire. Nous avons un continent fantastique, de beaux enfants, de belles femmes. Nous avons tellement souffert dans l'histoire que même le commun des êtres humains en est choqué. Il est temps que nous apprenions maintenant à changer les choses. Et pas seulement s'expatrier, pas seulement parler de changement, mais changer aussi effectivement, vouloir changer les choses effectivement.
Écoutez, on vous remercie infiniment et nous restons en contact avec vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je ne veux pas d'amalgame. Je veux rester dans la gamme. Quand on dit imbécile, on dit tant pis. Si l'Afrique est en retard, c'est la faute des tant pis. Si les Africains ont été vendus avec la complicité des tant pis. Les marchands d'armes prospèrent en Afrique, c'est la faute des tampis. Tant pis pour les tampis, tant pis. Tant pis pour les tampis, tant pis now. Tant pis pour les tampis, tant pis oh.
Voilà, il est 7h31 à notre moment. Vous écoutez Afrique Plus sur CHOFM. Nous sommes en pleine campagne de financement. On vous rappelle que le numéro de téléphone à composer pour nous aider, mesdames et messieurs, c'est le 613-562-5968. Voilà. Et nous sommes en communication ici actuellement, un retour à Ottawa avec M. Justin Materania. Bonjour, M. Materania. Vous êtes le président de la communauté congolaise à Ottawa-Gatineau. Bonjour et bienvenue à l'émission africaine.
Bonjour, Jean-Marie Vianney. Et je suis très content de pouvoir me connecter pour que je puisse parler avec mes compatriotes africains et africaines.
Alors, si vous permettez, on fait juste une courte pause publicitaire parce que c'est on dépend de la publicité.
Ok, merci beaucoup.
Ça prend 20 secondes.
Ah, je me sens mieux.
Pourquoi?
Je viens de changer mon assurance maison, voiture et vie. J'ai choisi les coopérateurs comme assureurs et ils m'ont offert un rabais incroyable.
À qui avez-vous parlé?
Mon agent coopérateur, Edouard Ilunga, 7131 rue Strenhardt, suite 202.
Je devrais les appeler. Comment est-ce que je peux les rejoindre?
Par téléphone au 613-825-1322. Tu seras content d'avoir appelé.
Les coopérateurs, une place de choix.
Alors, voilà, on est de retour à Afrique Plus. Monsieur Justin Materania, alors, vous êtes le président de la communauté congolaise du Canada à Ottawa-Gatineau. Oui. Alors, vous avez un colloque que vous organisez. On va parler de ce colloque-là. Colloque, la santé, c'est important.
OK. Oui, Jean-Marie Vianney, effectivement, c'est une initiative de la communauté congolaise du Canada et Ottawa-Gatineau. La communauté ou bien le comité de la communauté quand même s'est donné comme mission de pouvoir faire la priorité la santé. Et la santé, nous savons que la santé n'a pas de prix. Et c'est pour ça que le 12 avril, le comité de la communauté congolaise organise un colloque sur des sujets très importants qui touchent directement nos communautés, nos familles, nous-mêmes. Et nous allons parler sur trois sujets. Et le premier sujet, c'est comment détecter les détresses psychiatriques chez nos jeunes, oui, chez nos adolescents. Parce qu'on sait que vraiment, quand il y a un problème pareil au sein de la famille, c'est toute la famille qui empathie, c'est toute la communauté qui empathie. Quelles sont les solutions? Comment les détecter dès le commencement? Et où on peut aller chercher de l'aide? Ou comment on peut faire? Le deuxième sujet, nous voulons parler sur les cancers de l'utérus ou les cancers de disques
chez les femmes. Oui.
Nous savons que vraiment, ces derniers temps, c'est un fléau. Mais dans nos communautés, plus souvent, on ne prend pas ça comme au sérieux. Nous voulons sensibiliser, nous voulons que nos mamans, nos sœurs, puissent prendre conscience qu'ici, avec l'environnement dans lequel nous vivons, cette maladie-là, c'est une maladie que nous ne pouvons pas échapper et que c'est une maladie qui nous frappe actuellement. Mm-hmm. Le troisième sujet, c'est que nous voulons parler sur l'anémie falciforme. L'anémie falciforme, c'est une maladie aussi génitale qui est aussi dans nos communautés où la plupart des gens ne connaissent pas exactement comment on peut éviter cela. C'est une maladie qu'on peut éviter dès le commencement avant de pouvoir venir subir. On sait que effectivement ce n'est pas facile. Les familles qui ont des enfants SS, puisque cette maladie on l'appelle aussi SS, les familles qui ont des enfants SS dans ce pays où la vie individuelle prime sur la vie collective, c'est un calvaire que ces familles-là vivent, puisqu'ils doivent tout le temps être à l'hôpital, et ils doivent aussi aller travailler, et ce n'est pas facile, et ils n'ont pas quelqu'un pour les aider à la maison. Alors, ce n'est pas comme chez nous en Afrique, où même si tu as des enfants SS, mm-hmm, mais au moins tu as le support de la famille élargie, les amis, les voisins, tout le monde vient t'aider.
Vraiment, la famille africaine.
Atlas. Mais ici, c'est la famille individuelle, la famille très restreinte, où c'est maman et papa et enfant, pointre. Mm-hmm. Alors, ces familles-là vivent un calvaire, et nous voulons partager cette souffrance, cette douleur, pour voir, nous en tant qu'Africains, nous en tant qu'immigrants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que réellement, nous puissions nous entraider en tant que communauté. Et ce colloque-là s'adresse à toutes les communautés francophones.
Donc, on rappelle que c'est le 12 avril.
Le 12 avril à 10h, l'adresse c'est à 10h, ça va commencer à 10h jusqu'à 14h30. Et l'adresse, ça va se passer au centre communautaire Patro d'Ottawa, qui se trouve sur 40 rue Cobourg.
Au croisement entre Old Saint-Patrick, ici, au centre-ville d'Ottawa, en fait.
Au centre-ville d'Ottawa. Et je reprends encore, c'est au centre communautaire Patro d'Ottawa, 40 Cobourg, qui est croisement entre Old Saint-Patrick et Cobourg. C'est au centre-ville. Voilà. Pas très loin de King Edward.
Voilà. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire, un numéro de téléphone, l'occasion?
Oui, le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous rejoindre, c'est au 613-862-5534. Je redis encore le numéro de téléphone auquel vous pouvez, pour avoir plus de détails. 613-862-5534. Ou bien, vous pouvez nous rejoindre aussi le deuxième numéro. 613-316-8206. Je reprends encore le deuxième numéro. 613-316-8206.
Voilà, c'est toute l'Afrique, Monsieur Justin Materania, qui vous dit merci d'avoir participé à l'émission africaine Afrique Plus.
Merci beaucoup, Jean-Marie Vianney. J'espère que toutes les Africaines et les Africains, ainsi que tous les francophones du monde, viendront pour que nous puissions partager cette réalité qui est déjà la nôtre.
C'est ce qu'on espère.
Ok, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Magic System à Ottawa, Aquaba Production Connexion Jeunesse Canada Afrique et votre émission Africana présente pour la première fois à Ottawa le groupe Magic System, auteur de la chanson Premier Gaou et son orchestre Les Magiciens en concert live le dimanche 6 avril au centre Bronson, 211 avenue Bronson à Ottawa.
Ça, c'est c'est grave.
Ouverture des portes 17h45, showtime 19h. Les billets sont en vente dans tous les magasins africains et haïtiens de la région et à Ticketmaster. Pour toute information, 613-867-6787, 819-319-2154.
Dimanche, il faut que tout le monde vienne pour que ensemble on s'amuse parce que c'est ça va être un show époustouflant. Donc venez, comme on le dit, avec Magic System, tout le monde aura la maladie du bouger, personne ne va s'asseoir. Salut, moi c'est Asalfo du groupe Magic System. Si tu veux pas être Gaou, écoute la radio de l'Université d'Ottawa. C'est ça qui est la vérité.
Voilà.
Dimanche 6 avril.
Ouais. Merci beaucoup, Asalfo. On a hâte de te voir.
Allez, merci beaucoup.
Voilà, c'était un coup de cœur des Magic System ici. Voilà, l'émission est en train de continuer. Nous sommes toujours avec vous, mesdames et messieurs. Je suis avec un invité. J'ai monsieur Albert Kaye.
Richard.
Richard, ok, Richard, voilà. Alors, j'ai juste le temps de passer la musique, si vous me permettez, ou une publicité avant, et puis je reviens. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de faire la campagne de financement de la radio. C'est le 613-562-5968, le numéro de téléphone à composer. Et on vous revient tout de suite, juste après cette petite pause.
Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim ont un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compas, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatineau.
Voilà, on vous rappelle également aussi qu'il y a les écrans de la francophonie du monde qui se passent du 4 au 10 avril ici au cinéma Bytown, qui est situé au 325 rue Rideau, avec la production, c'est un festival de films. Hier, nous avons eu une interview avec le réalisateur, monsieur Tchèque Fantamadi Camara, qui est le producteur de... qui a produit le film « Il va pleuvoir » sur Conakry. Donc, on va passer l'entrevue avec lui la semaine prochaine, le temps de préparer l'entrevue, de faire à ce que toutes les choses soient prêtes. Nous avons une entrevue que nous avons réalisée avec le groupe Magic System et que nous avons passé un court extrait avec, si le temps nous permet, nous avons 60 minutes pour être africaine. Donc, à ce moment donné, nous avons Monsieur Richard Sanza Baganwa. Voilà, j'espère que je l'ai pas. Il est le président de l'association Umura. Ouais, c'est Umura. Ça. Voilà. Alors, rapprochez-vous juste du micro, juste un petit peu. N'ayez pas peur. Voilà. Merci beaucoup déjà de vous être déplacé, d'être venu nous voir. Écoutez, vous êtes le président de l'association Umura. Parlez-nous voir l'association Umura. Vous avez organisé une conférence de presse hier à la Maison du Citoyen, sur le Canada doit adopter une loi contre le négationnisme des génocides. Et donc, c'est un communiqué de presse, mais c'est comparativement à la célébration du 14e, la commémoration du génocide contre les Tutsis rwandais, que vous avez organisé ça en collaboration avec le Congrès juif canadien et la communauté nationale arménienne du Canada.
Oui, c'est bien ça.
Voilà, donc juste vous rapprocher du micro parce que le micro, il est très, très sensible.
D'accord. Merci bien, Jean-Marie, de m'inviter, de me donner l'occasion de parler de Humura, de ses activités et aussi surtout de la 14e commémoration du génocide contre les Tutsis du Rwanda qui se déroule du 7 au 26 avril.
Au 26 avril. Donc, c'est avant de parler de cette programmation, dites-nous voir, Umura signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une signification particulière?
Oui, tout à fait. Le mot tel quel, c'est un mot Kinyarwanda qui veut dire n'aie pas peur, effectivement. Alors, l'association a été créée à l'an 2001. Avec pour mission de œuvrer pour la justice, la mémoire et l'entraide entre victimes et rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda. Elle est donc basée ici à Ottawa, donc dans la région de la capitale nationale, mais c'est une association de droit canadien qui œuvre donc sur le territoire national.
Mm-hmm. Et dites-moi voir, j'aime à poser cette question-là. Le 6 avril 1994, vous étiez où?
À Kigali.
Vous étiez à Kigali?
Oui.
Racontez-nous voir cette journée, elle était comment?
C'est une journée, d'abord la journée avant la soirée tragique, c'était une journée comme les autres journées à Kigali qui mm-hmm. précédait le génocide, une journée de tension, de peur, d'angoisse, et ce parce qu'effectivement, sur un certain nombre d'années, les gens vivaient effectivement ce contexte de violence, de peur, de menace. Mais encore, ça n'avait pas encore atteint ce qui devait arriver à partir du 6 avril. Mm-hmm. Mais comme vous le mentionniez en début de mon introduction, mm-hmm. Et c'est pour ça effectivement que l'association existe ici, à partir du 7 avril 1994, une machine génocidaire a été mise en branle, puis systématiquement, enfants, femmes, vieux, vieillards, ont été massacrés. Au bout de 3 mois seulement, on avait inventorié plus d'un million de gens qui venaient d'être tués. Et l'association a été créée ici pour s'assurer que la mémoire de ce macabre génocide ne disparaisse pas. Mm-hmm. Et pour aussi aider se serrer les coudes entre les survivants, mais aussi à appeler à la conscience de tout le monde pour effectivement que ces gens-là soient aidés, soient supportés. Mm-hmm. Cette année, c'est la 14e fois qu'on se rend train de commémorer ce triste événement, ce génocide. Et la conférence de presse qu'on a
que vous avez tenue hier, oui.
C'était, comme vous l'avez vu, on a lancé une pétition qui demande au gouvernement canadien de mettre en place une législation qui consiste à interdire et à punir tout acte de négation du génocide. Mm-hmm. Nous l'avons fait pourquoi? Parce que nous constatons effectivement que ces derniers temps, il y a une certaine montée.
Il y a la tendance qui est en train de monter, les gens qui de plus en plus antagonisent refusent de reconnaître que le génocide a eu lieu, en fait.
Exactement. Et ça, par différents moyens. Il y a des livres qui s'écrivent, il y a des discours qui sont tenus, il y a des comportements. Et tout ça, on pensait que s'il n'y a pas un frein mis à ce processus, on risque de tomber dans un contexte où on ne se souvient plus de rien. Non, peut-être pas parce qu'on n'en parle pas, mais parce qu'on en parle avec cette confusion qui vient couvrir la mémoire, qui l'empêche de se maintenir, qui crée la confusion. Et au bout de quelques années, on risque de ne plus savoir ce qui s'est passé exactement.
Mmh. Et dites-moi, lors de cette organisation, vous avez pratiquement un mois, du 7 au 26 avril. Vous avez des conférences, une autre conférence qui aura lieu à l'Université Saint-Paul.
Oui, c'est bien ça.
Parlez-nous de comment est-ce que s'échelle cette programmation, tout ce mois que vous avez planifié.
Tout à fait. Alors, le 7, donc lundi à midi, on se rencontre au Parlement, sur la colline parlementaire. Et ça, c'est pour lancer de façon solennelle la période de commémoration. Et là, on s'attend effectivement à un rassemblement de la communauté rwandaise, mais aussi des amis, des Canadiens de toutes origines, mm-hmm. et les dignitaires du gouvernement canadien et aussi les parlementaires, et bien sûr aussi la communauté des diplomates d'autres pays qui soutiennent les Rwandais dans cette période douloureuse. Mm-hmm. Et il y aura des discours, il y aura des chansons, des poèmes. Et dans la soirée du 7 avril, on a une conférence qui se tient à l'Université Saint-Paul.
Oui.
Et ce, de 19h, de 19h à 21h.
Et la conférence est intitulée « Le rôle de la communauté internationale dans la lutte contre le négationnisme du génocide des Tutsis du Rwanda.
Ah, oui, c'est bien ça. Et nous avons deux conférenciers de renom, Monsieur David Kilgo, qui est un ancien député au Parlement canadien,
oui.
Et Monsieur Richard Batsinduka, qui est aussi un expert dans le domaine de la résolution des conflits.
Mm-hmm.
Et le 11, vendredi le 11, nous avons au sein de la communauté rwandaise, pour soutenir les victimes et les rescapés, ce que nous appelons une vigile traditionnelle, qui est un événement plutôt privé, je l'appellerai ainsi, mais qui fait venir tout le monde au sein de la communauté pour, à la traditionnelle, à la rwandaise, nous consoler mutuellement.
Mm-hmm.
Le 13 avril, ce sera dimanche, nous avons une messe solennelle. Cette fois-ci, on invite tout le monde à y participer. C'est une messe consacrée à cette période-là et elle est vraiment mise dans le contexte. C'est une messe qui voudrait toucher la souffrance des victimes et les consoler. Et le 19 avril, nous avons une autre conférence, encore une fois, à l'Université Saint-Paul, de 16h à 10, c'est de 15h à 17h. Et là, nous invitons effectivement le public au large à venir débattre de la question des médias et du négationnisme du génocide contre les Tutsis du Rwanda.
Parce qu'à Montréal, en fait, vous êtes au courant que le 29 mars à Montréal, il y a eu cette conférence sur le rôle, les médias et le Rwanda. Le titre de la conférence était les médias et le Rwanda, la difficile recherche de la vérité avec... Ouais. Des panélistes ou des conférenciers comme Monsieur Pierre Péan, un écrivain français, oui. Un enquêteur aussi, et un Canadien, Robin Philpott, en fait, oui. Que tout le monde devrait connaître, un écrivain québécois, oui. Qui sont dans la tangente forte de la négation de ce qui s'est passé au Rwanda.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, effectivement, que nous invitons toujours les médias à continuer à se questionner sur son rôle dans ce qui peut propager la négation d'un fait historique incontestable.
Mm-hmm.
Et cette conférence à laquelle j'ai été d'ailleurs,
oui.
Et c'est effectivement un exemple clair. De ce qui en fait perturbe la mémoire.
Et c'est pour ça que c'est impératif de mettre la signature, de signer la pétition que vous êtes en train de lancer contre ce genre de négationnisme.
Oui, entre autres et surtout. Parce que à cette conférence-là, on a effectivement observé que la présence des gens importants, dont les députés issus notamment du Parti québécois, mais aussi du Bloc québécois représenté ici à Ottawa, était présent. Et vous savez, dans ce cas-là, c'est vraiment pour rehausser, marquer l'événement.
Mm-hmm.
Et c'est un événement triste, au contraire.
Voilà.
Et ça, ça nous choque. Et tout le monde connaît, du moins la plupart des gens qui s'intéressent à la question rwandaise connaissent M. Philpott, hein, mm-hmm. Et connaissent M. Payan. Ce sont des gens qui se déclarent ouvertement... en train de rechercher une autre version du génocide. Ils prétendent qu'il y a une version officielle du génocide.
Mais dites-moi, est-ce que j'essaie d'extrapoler un peu, de faire un parallèle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre version en dehors de cette version-là? Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à vouloir chercher une autre version? Pourquoi ils sont négationnistes?
Non, vous savez, les négationnistes, des fois, sont même des gens... on a toujours dans la vie des gens qui cherchent à choquer, à créer le controverse, à faire parler d'eux-mêmes. Mais il n'y a pas de version, il n'y a pas plusieurs versions du génocide. Les gens ont commis un génocide. Les gens sont morts de ce génocide-là. Et on dénombre les victimes chaque jour. On écoute les témoignages des survivants tous les jours.
Mm-hmm.
Et ce génocide a été confirmé, enquêté et confirmé par les Nations Unies. Un tribunal pénal international a été mis en place pour punir les auteurs et les responsables de ce génocide.
Mm-hmm.
Et c'est un fait. Là. On ne sait pas quelle autre vérité, quelle autre version les gens seraient en train de chercher. Par contre, quand on écrit, quand on prétend être enquêteur, journaliste, à un certain moment...
En plus, on a ce qu'on écrit, c'est ça de la valeur. Donc, il faut faire attention et par rapport à ce qu'on dit aussi.
Exactement, mais évidemment, c'est le piège dans lequel certains se laissent tomber en pensant qu'ils sont en train de servir une certaine cause. Mais cette cause, si ça existe, c'est une mauvaise cause.
Mm-hmm. Si vous permettez, on fait juste une pause musicale, le temps de souffler un peu.
Oui,
voilà, la musique, comme on dit, ça adoucit les mœurs. Et voilà, on va vous passer le Lokua Kanza. Il a une belle voix, on l'aime bien.
Busiku inafika, mtota mami na pashulali. Dunia ni maneno, mtota mami na pashulali. Siku inafika, mtota mami na pashulale. Dunia ni maneno, mtota mami na pashulale.
Mtoto wa mama, siku inakuya, muzika weyo.
Siku inafika,
lalawe,
mtota mami na pashulale.
Twa mama we,
dunia ni maneno, mtota mami na pashulale.
Papa, dunia ni mambo mingi mtota mama. Mapendo njo mwisho, enyi Mungu alituomba di, yeah, yeah.
Busiku inafika, mtota mami na pashulale.
Voilà, on écoute la belle voix du sacré Lokua Kanza. Le titre de la chanson, c'est Mutoto, tiré de son album. En fait, c'est Lokua Kanza. Voilà, tiré de son album Lokua Kanza. Le titre de la chanson, c'est Mutoto. On espère qu'en ce samedi matin, ça va nous apporter un peu plus d'envie de continuer à faire des choses malgré... tout ce qui peut se présenter à nous. Alors, nous avons un invité avec nous ici en studio. Et dites-moi, j'ai assisté à cette conférence et j'ai posé cette question toute bête, toute simple. Et je vais vous la poser aussi. Moi, je viens d'un pays d'Afrique où on a 300-400 ethnies. Et je trouvais ça un peu difficile. Et ce que j'ai toujours eu comme feedback des autres amis ou frères africains, ils ont dit, mais comment est-ce que ça se passe? Ils n'arrivent pas à se réaliser. Comment est-ce que deux ethnies parlent la même langue, pratiquement la même culture, sont en arrivée là? Et j'ai posé cette question comme ça, juste pour ceux et celles qui se posent cette question, pour peut-être comprendre mieux la problématique de la manipulation qui peut avoir quand on est leader politique, quand on est un religieux, quand on est un enseignant, quand on a le pouvoir, en fait.
Oui, vous savez, vous êtes bien sûr justifié de se poser la question. Et effectivement, nous, au Rwanda, on n'a que trois groupes ethniques à savoir les Twa, les Hutu, les Tutsi. Encore faut-il souligner qu'après le génocide, le gouvernement mis en place a choisi d'abolir ces mentions ethniques et de ne plus y faire référence.
Même dans les écoles maintenant, ça commence, ils sont en train de refaire les manuels les scolaires pour ne plus faire référence à ces noms et tout ça.
Exactement. Et je crois que c'est un effort qui, dans le contexte, essaye de voir comment, dans l'avenir, ces distinctions-là ne puissent plus être source de préjudice et de sévices contre l'un ou l'autre de ces groupes qui ont existé par le passé, par ailleurs. Sinon, à l'origine, et c'est encore une fois complexe et long, mais résumément, il faut dire que les historiens, les chercheurs s'accordent sur le point qu'au début, à un certain moment, ces groupes-là n'étaient que des groupes sociaux qui pouvaient se distinguer de par le mode de vie. de par la façon dont il possède la richesse, dont il exploite aussi. Mais par la suite, avec la colonisation essentiellement belge, ces groupes ont été cristallisés en utilisant entre autres la carte qu'on appelle la carte d'identité, mm-hmm. qui a décidé que chacun devait porter clairement le nom du groupe ethnique dans lequel il était recensé.
En passant, sans vous couper, le Canada continue à insister à demander l'appartenance ethnique aux Rwandais, aux Rwandaises qui veulent immigrer au Canada, s'ils sont quelque chose qui au Rwanda est en train d'être dépassé. Mais l'immigration au Canada continue à avoir toujours ce schéma-là.
Oui, ils ont ça. C'est une question qui figure sur le formulaire que chacun doit remplir. Si les ressortissants rwandais qui voudraient venir au Canada, qui demanderaient que le candidat à la demande de visa mentionne ou établisse à quel groupe ethnique il appartient. Ou sinon, il appartenait avant 1994. Mm-hmm. Évidemment, on a trouvé ça scandaleux, on a dénoncé ça et on pensait que à l'avenir, ce genre de formule devrait être révisé. Mm-hmm. Mais pour revenir à la question, il faut dire que les groupes ethniques, que ça existe ou que ça n'existe pas, il y a eu tout simplement une certaine manipulation de la part des autorités politiques. Évidemment, du moment que les gens avaient ces distinctions mentionnées dans le cadre d'identité, les politiciens ont toujours, la plupart du temps, cherché à se légitimer, non pas par ce qu'ils pouvaient faire pour la population, mais en insistant sur leur origine ethnique, pour prétendre que si les Hutus, il y a là toute la majorité ethnique derrière lui, mm-hmm. et que cette majorité devrait être avec lui dans le mal et dans le bien, comme si c'était un mariage. Mm-hmm. Et ça, malheureusement, surtout dans les années 59, 60, 63, 73, ainsi de suite, l'autorité qui venait de remplacer la monarchie, une monarchie au départ Tutsi, mais qui a été renversée par un régime républicain Hutu, mm-hmm. pour l'essentiel, ces gens-là ont toujours exploité les différences ethniques pour se maintenir au pouvoir, pour justifier leur maladresse au niveau de la réponse qu'ils pouvaient avoir par rapport aux questions qui se posaient, des mm-hmm. questions économiques, des questions politiques, des questions sociaux. Alors, au lieu effectivement de faire preuve d'ingéniosité, ils devaient toujours recourir sur nous avons un ennemi commun, c'est le Tutsi, on a aboli la monarchie, ça veut dire Tutsi, alors... pour se maintenir au pouvoir, pour que la monarchie ne revienne pas, eh bien, majorité, aidez-nous à vous protéger. Et la façon de vous protéger, de nous protéger, c'est de nous éviter d'écarter l'autre groupe.
Voilà.
Et ça a existé jusqu'à ce qu'effectivement, beaucoup de gens fuient le pays. Et ils ont fui le pays, ils n'ont pas pu revenir au pays. Et quand ils sont revenus avec le moyen de dernier recours à les armes, là, toute une campagne à l'intérieur a commencé, ciblant les Tutsis qui étaient à l'intérieur. Mm-hmm. Et ça a abouti au génocide.
Voilà, 30 secondes pour terminer, parce que le générique, vous l'entendez déjà en fond sonore. C'est le générique de l'émission, c'est la fin de l'émission. Allez, 30 secondes pour terminer, monsieur Richard Zanza Banganwa.
Ouais, bien essayé.
Ok, voilà. Voilà, à la longue, je vais me pratiquer plus. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, 30 secondes pour le mot de la fin.
Oui, alors, aujourd'hui, nous insistons sur le fait de préserver la mémoire. Écoutez, que l'on soit intellectuel, que l'on soit journaliste, que l'on soit qu'on appartienne à quelconque catégorie du savoir ou du mode de vie, c'est important de penser et de s'assurer que la mémoire de l'humanité est préservée telle qu'elle et qu'on donne respect aux victimes des barbaries humaines. Un génocide, c'est quelque chose qui est perpétré contre la race humaine et c'est tout le monde qui est interpellé dans ce cas-là. Et ce n'est pas effectivement parce qu'on a peur de penser que si j'insiste sur la mémoire, les responsabilités des uns et des autres seront mises en évidence. Mais par contre, il faut effectivement être courageux assez pour assumer ses responsabilités et regarder l'avenir en acceptant que la mémoire puisse être préservée.
Voilà, c'est l'Afrique tout entière qui vous dit merci d'être passé à Ici l'Afrique et nous on reste ensemble, on continue à suivre l'événement, le déroulement du programme et Afrique Plus est ouvert à l'Afrique, notre émission est à la porte ouverte pour toutes les activités qui sont organisées par rapport à cette commémoration-là.
Merci beaucoup et je vous invite effectivement à être présent.
Je vous remercie.
Merci.
Au revoir, mesdames et messieurs. Il est 8h03 et Mike Mouchere est là avec son équipe Ici l'Afrique et on vous laisse entre les bonnes mains. Restez et continuez à nous donner de l'argent si c'est intéressant. Le 635-62-59-68. Au revoir.